Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Dégradation de la situation humanitaire et sanitaire dans le Masisi au Nord Kivu. Environ 10 000 personnes sont rassemblées dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Masisi. Conséquence des récents combats entre le M23 et l'armée appuyée par les Wazalendo, Médecins sans frontières qui prend en charge les blessés s'est dit débordé. Le chef des missions de MSF en RDC est l'invité de ce journal. Et puis, retour à la normale ce mardi dans le transport en commun dans certains coins de Kinshasa. C'est après la rareté des bus, taxis et taxibus observés hier lundi. Les chauffeurs de transport en commun protestent contre la nouvelle grille tarifaire de l'hôtel de ville de Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des besoins médicaux et humanitaires se font sentir de plus en plus au chef-lieu du territoire de Masisi. L'alerte est du chef de mission de Médecins sans frontières, MSF en RDC, alors que la situation humanitaire et la situation sécuritaire dans la région restent volatiles, ce en dépit d'une accalmie observée après des combats qui ont opposé il y a quelques jours les rebelles du M23 au FARDC appuyés par les Wazalendo dans cette région. Ces affrontements ont eu comme conséquence la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire, avec environ 90 blessés qui continuent à être pris en charge par les équipes de MSF à l'hôpital général de Masisi. On écoute à ce sujet Stéphane Godibia, chef de mission de MSF en RDC. Il est au micro de Denise Lukeso.
Il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire, que ce soit pour les acteurs humanitaires comme Médecins sans frontières, mais surtout pour la population. Ça a un impact directement sur la situation humanitaire et sanitaire, parce que pour pallier à cette incertitude, à la crainte que les combats génèrent, la population s'est déplacée. Des gens ont quitté les endroits où ils étaient, sur Katalé d'abord, et puis sur Masisi, et beaucoup se sont réfugiés dans la structure de l'hôpital que MSF supporte. On estime jusqu'à 10 000 personnes se sont rassemblées dans l'enceinte de l'hôpital, qui n'est pas un énorme hôpital. L'espace est assez réduit. Donc ça génère évidemment une tension sur un hôpital qui est toujours fonctionnel, hein. Donc ça crée évidemment une tension sur nos capacités à offrir des conditions d'hygiène minimales à cette population. Les latrines ont très vite débordé, l'accès à l'eau a été compliqué. On est obligé de gérer un peu cet afflux. Donc tout ça est assez compliqué. Ça a un coût moral sur les équipes, parce que avec 10 000 personnes dans l'hôpital, c'est très difficile d'opérer correctement. Mais les équipes sont vraiment restées mobilisées et sont parvenues à garantir la continuité de ces activités.
Par ailleurs, l'armée confirme la reprise du contrôle de la localité de Lumbishi en territoire de Calais au sud Kivu. C'est dans le cadre de l'opération Caterpillar 2. Le porte-parole des FARDC au nord Kivu, qui confirme l'information, revient de cette localité qu'il a visitée dimanche. Cette cité et quelques autres collines environnantes ont été à un moment occupées par les rebelles du M23. Pendant ce temps, des violents combats opposent depuis tôt ce mardi matin l'armée congolaise aux rebelles du M23 autour de Ngungu, territoire de Masisi. Le récit de Chris Mukandmatande.
Depuis les mois d'août et septembre de l'année dernière, les rebelles du M23 ont fait plusieurs incursions dans le territoire de Calais, notamment dans les localités de Lumbishi, après Numbi, en groupement Zirale, à l'envers Chiambombo. Du côté des Hauts Plateaux, ils étaient déjà dans quelques localités du groupement Bouzi. Des sources de la société civile renseignent que les rebelles du M23 s'étaient imposés en amenant des troupeaux de vaches et soumettant les populations locales au paiement des taxes multiples. Maintenant, dans le cadre de l'opération Caterpillar 2, l'armée contrôle à nouveau la localité, dit le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'armée.
Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Luzirantaka, à Kamatali, à Bitagata, à Kabingo, parce qu'ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Et partout là-bas, ils ont été repoussés, et plus récemment encore, au-delà d'Ngungu.
Du côté du territoire voisin de Masisi, au Nord Kivu, depuis 4h du matin ce mardi, des violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23. Selon plusieurs sources, l'armée répond à une nouvelle tentative d'assaut des rebelles sur cette localité sous contrôle des FARDC des Wazalendo depuis quelques jours. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Santé au Nord Kivu, plus de 100 nouveaux cas de maladies atteintes du VIH, des malades atteints du VIH-SIDA sont identifiés dans les sites des déplacés autour de Goma. C'est à l'issue d'une enquête réalisée dans ces sites en ce début d'année par le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA PNMLS pour tenter de limiter la propagation de la maladie. Le coordonnateur du PNMLS au Nord Kivu voudrait que les organisations humanitaires intègrent le fonds VIH-SIDA dans le paquet d'assistance en faveur des déplacés. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Si la question du VIH n'est pas vite intégrée dans les paquets des prises en charge humanitaires des déplacés, leur camp risque de devenir des foyers de propagation de cette maladie. C'est ce que craint les coordonnateurs du programme national multisectoriel des luttes contre le VIH-SIDA, PNMLS Nord Kivu, Aubin Mungili, après quelques jours de dépistage volontaire dans 10 sites de déplacés autour de Goma.
On a eu 113 cas de VIH positifs dans les différents sites cumulés. Ça nous a troublés. Ici, il s'agit des nouveaux cas. Et nous avons eu aussi 480 assez cas. Et ce qui nous fait encore davantage mal au cœur, ces personnes n'ont pas accès aux ARV. Avoir les taux élevés des personnes vivant avec le VIH dans les sites, ça rend les sites encore beaucoup plus vulnérables.
Il ajoute que si rien n'est fait dans l'urgence, à la fin de la guerre, c'est une population infectée qui regagnera les territoires. Notons que depuis le début de la crise, les humanitaires doivent opérer des choix difficiles sur les réponses urgentes à apporter aux besoins des déplacés selon les fonds limités qu'ils parviennent à mobiliser. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Dans le territoire de Beni, un premier cas confirmé de monkeypox a été notifié dans la zone de santé rurale d'Oicha. Il s'agit d'un nourrisson de 2 mois qui vit avec sa mère dans le site des déplacés de Louvangira. Selon des sources médicales, le cas a été suspecté le 5 janvier dernier quand des échantillons ont été prélevés pour des analyses. Celles-ci ont confirmé que l'enfant était atteint de la variole de singe. 2 autres cas suspects ont été également signalés dans le même site des déplacés. Archip Koule Kiusa, infirmier et superviseur chargé des activités préventives et surveillance épidémiologique, indique que toutes les dispositions ont été prises pour faire le suivi des contacts à risque et éviter ainsi la propagation de la maladie. Archip Koule Kiusa est joint par Guylaine Kassassia.
La zone de santé vient de notifier un cas positif de monkeypox. Ce cas s'est retrouvé chez un enfant de 2 mois et curieusement, la famille s'était déplacée et qui reste dans des sites de déplacés. Notre crainte est que comme le cas se trouve là où les gens sont entassés, il y a risque que la propagation de la maladie soit grande. C'est pourquoi la zone de santé avec l'équipe de CZ, ils ont jugé mieux d'abord faire les listages, les contacts à haut risque. L'entretemps, il y a eu des autres qui ont présenté les mêmes signes ISO au CETEM de Oicha. Nous sommes en train de sensibiliser la population de la zone de santé, de se prévenir de cette maladie en se lavant régulièrement les mains. Nous sommes aussi en train de préconiser faire la vaccination, surtout les familles là où se trouveraient ces cas, d'être vacciné.
Je vous le disais en titre, retour à la normale ce matin dans le transport en commun. Dans certains coins de la ville de Kinshasa, les bus, minibus et taxis sont à nouveau visibles sur les artères après la rareté observée hier lundi. C'est le cas à Kintambo. Toutefois, à l'est et dans une partie de l'ouest de la ville, la situation est encore compliquée ce mardi. Reportage de Babel Mpongo Masimango, rendu par Blaise Shindani Kambala.
S'il est aisé ce mardi de se déplacer dans des coins comme Kintambo, ce n'est pas le cas à Binza Pompa Jangaliema ou encore sur les tronçons allant de Limité à Pascal ou Kingasani. Ici, plusieurs véhicules de transport ne sont pas sortis. De nombreux Kinois habitant ces parties de la ville sont contraints de parcourir de longs trajets à pied pour rejoindre leur lieu de travail. Ceux qui en ont les moyens prennent la moto. Et là, les prix sont aussi revus à la hausse. Précisons qu'un moratoire de 10 jours est accordé aux associations de transporteurs en commun pour sensibiliser les acteurs de ces secteurs sur l'application de la nouvelle grille tarifaire. C'est ce qui ressort de la rencontre hier lundi à Kinshasa entre les ministres provinciaux des transports Bob Amisso avec des représentants de ces associations. Pendant cette période de courtoisie routière, les conducteurs sont exemptés de tout contrôle. Ils sont toutefois appelés à respecter les codes et les civismes routiers.
Rendons-nous dans la province du Kwilu. Certains quartiers de Bandunduville, dont Monusco, sont victimes de la mauvaise qualité du courant électrique que fournit la SNEL. Les abonnés de ce quartier qui abrite des milliers d'habitants ainsi que la Ligue des consommateurs de Bandundu se plaignent de la manière dont ces derniers subissent les effets de l'instabilité du courant électrique. Néanmoins, le directeur provincial de la SNEL Kwilu rassure, le problème sera résolu dans les tout prochains jours. Irène Boma nous fait le point.
Absence totale du courant électrique pendant de longues heures de la journée ou de la nuit, instabilité de l'électricité par des coupures intempestives chaque jour et un courant électrique très faible, telles sont les difficultés auxquelles font face les habitants du quartier Monusco à Bandunduville. Ces derniers ne savent pas comment s'en sortir dans leur ménage et se lamentent en ces mots.
Vraiment, nous regrettons de la manière dont la SNEL nous envoie l'électricité. Nous ne savons même pas travailler à l'ordinateur, nous ne savons même pas allumer la télé, ça c'est pas correct.
Préoccupé, le président de la Ligue des consommateurs de Bandundu déplore également cette situation. Didier Aboukani.
Les abonnés se plaignent, les appareils se brûlent. À tout moment. Nous demandons à la SNEL vraiment qui aménage sa monture. Les abonnés sont en train de payer les factures. Ils doivent bénéficier d'une bonne qualité d'énergie.
Cette situation sera résolue dans un bref délai, a déclaré le directeur de la SNEL Kwilu, l'ingénieur Prosper Bakoukou.
Je sais qu'il y a des problèmes. Nous sommes en train de travailler pour vous mettre dans la nouvelle cabine. Mais la solution durable est que les travaux qu'on a déjà amorcés, c'est question que nous puissions mettre en exécution ces travaux-là.
Précisons que cela fait déjà près d'un mois que les habitants du quartier Monusco ont commencé à vivre ces calvaires. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Kasaï Oriental, l'entreprise chargée de construction et modernisation des routes Safrimex déplore les actes de vandalisme causés le week-end dernier par certains de ses ouvriers suite à la mauvaise interprétation de la décision prise par les responsables de cette société. Samedi dernier, certains ouvriers ont lancé des projectiles sur quelques véhicules au niveau du rond-point Tiombela, commune de Bipemba à Mbujimayi et sur l'avenue Inga. D'après l'avocat conseil de Safrimex, plusieurs ouvriers ont été renvoyés pour une durée de 3 jours afin que l'entreprise organise les déploiements dans un autre site, mais cela a été considéré comme un renvoi définitif. José Lufuluabo, avocat conseil de l'entreprise Safrimex, joint par Esther Ndalafina.
Nous déplorons le fait que parmi les ouvriers qu'on appelle notre travaux, il y a eu apparemment infiltration de personnes de mauvaise foi. On n'est pas parlé de la main noire. Nous déplorons des cassures des biens de la société qui ont été vandalisées dans ce mouvement-là. Alors qu'en réalité, il avait été juste demandé à ces quelques ouvriers d'observer 3 jours pour le temps que la société, notre cliente, après un cadre approprié sur la RN1 pour qu'ils puissent aller y travailler, ce qu'ils ont mal interprété. Alors la société a pris des résolutions de poursuivre tous les auteurs présumés de ces actes afin de décourager ces comportements. Déjà, l'acte posé n'est pas bon puisqu'il est de nature à décourager certains, de nature à blesser les autres, de nature à causer du tort à la société. N'était-ce l'intervention de la police que nous avions eu à dépêcher, que nous remercions d'ailleurs, on aurait déploré les pires. Mais Dieu merci.
Direction la province de la Tchopo. Bientôt une bibliothèque moderne, analogique et numérique pour le collège Maïlé à Kisangani. Monseigneur Léonard Njadi Njate, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, a procédé à la pose de la première pierre hier pour la construction de cet ouvrage. Cela grâce à une partie des fonds issus de l'indemnisation du Free Vao à l'église catholique de Kisangani. Cette dernière avait reçu en octobre dernier une enveloppe des $2,500,000 à d'acompte de l'enveloppe globale de $4,500,000 sollicitée auprès de cet établissement public pour des dommages subis lors de la guerre de 6 jours. Jacques Moukonkolé, reportage.
La construction de cette bibliothèque est une réponse de l'archidiocèse de Kisangani à un besoin réel exprimé par les collèges maélé lors du récent passage de l'évêque auxiliaire dans cet établissement scolaire. Selon son préfet des études, Jean-Claude Kazadi, depuis une décennie, les élèves ont perdu le goût de la lecture faute de bibliothèque. Dans le local où sont entreposés les ouvrages, il fait noir et la chaleur y est insupportable. Le collège maélé est une des structures scolaires de l'église catholique qui avait été grandement touchée par les effets de la guerre de six jours. Ces travaux sont donc entrepris en guise de réparation des dommages subis par les collèges pendant la guerre de six jours, a déclaré Mgr Léonard Djadindjaté, et de renchérir qu'au terme de la construction de cet édifice, les travaux de réhabilitation des bâtiments principaux du collège seront entamés. Leur construction date de 1939. D'après l'entrepreneur Guy Mokelembo, le bâtiment de la bibliothèque est de deux niveaux, 11 mètres de longueur, 10 mètres et demi de largeur, 4 mètres de hauteur au des chaussées et 3 mètres et demi au premier étage. Le coût des travaux est estimé à 91 000 dollars américains, tandis que la durée de construction est fixée à 3 mois et demi en temps normal, précise l'entrepreneur. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, au moins 3 personnes, nous venons de l'apprendre, au moins 3 personnes sont mortes à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa la nuit de lundi à ce mardi. Une mère et ses deux enfants ont ainsi perdu la vie au quartier Moussey dans la commune de Ngaliema. Un mur s'est écroulé sur leur habitation. Un autre des enfants est lui à l'hôpital pour des soins. Par ailleurs, toujours en Ngaliema à Kinshasa, des éboulements de terre ont eu lieu sur l'avenue du tourisme, rendant difficile la circulation. À propos de la pluie, sachez qu'il y a eu des inondations dans plusieurs quartiers de la ville, situés surtout le long des canalisations et des rivières, mais les dégâts ont pu être limités grâce au curage, affirment les autorités communales. Dans l'actualité aussi, vous le savez peut-être déjà, le célèbre catcheur congolais Edingwe Mapima, alias Motolangenge, est décédé hier au Maroc à l'âge de 73 ans. Son décès survient quelques jours après son évacuation d'urgence vers ce pays pour des soins médicaux pris en charge par le gouvernement suite à une dégradation soudaine de son état de santé. Né à Kinshasa, Edingwe a passé son enfance et sa jeunesse dans la commune de Matete avant de se lancer dans le catch dans les années 70. Il s'est fait un nom grâce à son style unique. C'est comme en témoigne ici l'ancien catcheur Ponch Samson qui a combattu à ses côtés, des propos recueillis par Kanish Mokongo et Kakiakiwa.
Edingwe Motonangenge, un catcheur, un homme qui voulait tout oser, qui croyait tout faire. C'était le catcheur le plus populaire de la RDC, il faut le dire et le reconnaître aussi, qui voulait toujours être au-devant de la scène, qui ne voulait pas qu'on l'oublie. Et en plus de cela, il faisait tout pour gagner le combat. C'est-à-dire, quand j'ai dit il faisait tout, il pouvait tout se permettre. Dans ses débuts, Edingwe n'était pas un grand féticheur qu'on a connu vers la fin. On l'appelait l'homme de la force brutale. Et il n'avait pas cette coiffure-là. Il avait la tête tendue. Et on savait à lui, avec sa masse, et ce qu'il avait comme muscle. On pouvait dire qu'un homme fort, parce qu'il était l'homme de la force brutale. C'est peut-être vers les années 80 que Edingwe était devenu Motonangenge, dans le sens où vous connaissez, avec tout ce qui entraîne sa force, l'histoire de la magie, faire danser les gens, etc., etc.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mozambique. C'est le deuxième jour ce mardi de grève générale à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane de retour d'exil. Le candidat malheureux a demandé à ses partisans de paralyser le pays pendant 3 jours afin de protester contre la fraude électorale du 9 octobre 2024. Tout cela à la veille de l'investiture du président élu, prévue demain 15 janvier. La veille, ce sont les députés qui ont prêté serment alors que dans les rues de Maputo, les barricades étaient de retour.
L'invité.
Nous recevons le chef de mission des Médecins sans frontières, MSF en RDC, Stéphane Godibia, décrit la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans la région de Masisi. Après une dizaine de jours de combats opposant le M23 au FARDC, il est avec Denise Lukeso.
Monsieur Stéphane Godibia, bonjour.
Bonjour à vous.
Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle sur le terrain à Masisi Centre? la situation humanitaire, sanitaire et sécuritaire après 2 semaines pratiquement des affrontements entre les deux parties?
Je vais commencer par le sécuritaire. Donc, vous savez que la ville a changé 3 fois de main la semaine passée. Et évidemment, ça a généré un stress particulier et ça crée une certaine confusion. Qui contrôle quoi et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur le point sécuritaire. Ça a un impact directement sur la situation humanitaire et sanitaire. On est obligé de gérer un peu cet afflux de personnes. Il y a eu, je crois, autour de 90 blessés qui ont été admis à l'hôpital au cours de ces derniers 10 jours. Donc tout ça est assez compliqué.
Et comment MSF arrive à travailler dans une zone en plein combat comme ça?
Nous sommes présents à Massissi depuis 2007. Nous avons tissé avec les différents acteurs locaux, politiques, armés, de la société civile, des liens assez étroits. Et nous avons passé beaucoup de temps et d'énergie à côté de nos activités médicales à communiquer avec eux, informer ces différents acteurs quel était le mandat de Médecins Sans Frontières et quel était l'ambition de Médecins Sans Frontières, même en période de combat. Et l'ambition de Médecins Sans Frontières à Massissi, même en période de combat, c'est de rester opérationnel le plus longtemps possible. Parce qu'il y a bien sûr un afflux de blessés liés au combat, mais les autres besoins médicaux restent présents. Il y a eu un accouchement, je pense que c'était hier, un accouchement devant la porte de notre bureau, littéralement. Donc les besoins médicaux sont toujours là. Donc l'objectif, c'est de rester là le plus longtemps possible, en garantissant auprès de ces différents acteurs notre neutralité et notre impartialité. Et donc nous sommes en contact permanent avec ces acteurs pour leur dire que vraiment c'est très important pour la sécurité des populations, pour la sécurité du staff, que on garantisse l'inviolabilité de l'hôpital et des bases des ONG. Jusqu'à présent, je dois dire que dans ces derniers 10 jours, qui ont été des jours très tendus pour la population de Massissi, les structures médicales et les bases des organisations ont été respectées par les différents acteurs armés.
Voilà, monsieur Stéphane, vous parlez de l'afflux de blessés liés au combat. Et face à cet afflux, comment vous arrivez à gérer les blessés et les déplacés qui sont autour et au niveau de la base MSF?
L'hôpital a toujours été fonctionnel, donc que ce soit le staff du ministère de la Santé et de MSF, eux-mêmes ont cherché et ont trouvé refuge à l'hôpital ou à la base MSF. Et donc ils sont mobilisés et mobilisables. Et donc on a des équipes du ministère de la Santé accompagnées des équipes MSF qui sont restées opérationnelles, qui ont pu continuer à traiter les cas, y compris des opérations, pendant toute la durée des combats. L'hôpital est assez autosuffisant en eau et en électricité. Ça a un coût, évidemment, un coût moral sur les équipes, parce que avec 10 000 personnes dans l'hôpital, c'est très difficile d'opérer correctement. Mais les équipes sont vraiment restées mobilisées et sont parvenues à garantir la continuité de ces activités. Ce que nous n'avons pas pu faire, madame, et je pense que c'est important de le souligner aux auditeurs, nos activités en dehors de Massissi. Il y a probablement des besoins liés aux déplacements récents de populations qui auront été ailleurs qu'à Massissi, ailleurs que dans l'hôpital et dans les bases MSF. Et pour l'instant, à cause de la situation tendue et confuse, nous n'avons pas été capables d'envoyer nos équipes pour essayer d'évaluer les besoins et de répondre à ces besoins en dehors du centre-ville de Massissi.
Voilà, pour terminer, Monsieur Stéphane Godibia, quels sont les vrais besoins actuels de ces populations qui se déplacent d'un moment à l'autre?
Je pense que le besoin, c'est la paix et la stabilité. Je crois que cette instabilité, cette incertitude sur qui va contrôler la ville demain ou ce qui va se passer, ça génère un stress et un blocage, une incapacité à poursuivre une vie relativement normale et à répondre aux besoins de ces femmes et de ces enfants en priorité. Et le deuxième message, c'est le respect de cette inviolabilité et de la neutralité des structures médicales et des bases des ONG qui essayent d'y travailler.
Monsieur Stéphane Godibia, Radio Capi, vous remercie.
Merci à vous pour votre temps et votre écoute.
Le chef de mission de MSF en RDC répondait aux questions de Denise Lukeso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.